C'est blesser un peuple au plus profond de lui-même que de l'atteindre dans sa culture et sa langue. Mesdames, Messieurs, votre émission Interligne prend son envol sur les ondes de la 105.5 MHz. Interligne, c'est votre émission qui fouille entre les lignes et vous aligne les lignes des cultures, des nouvelles tendances et des faits marquants de la société. La lecture des lignes d'Interligne, c'est à travers Soir au village, Tape à l'œil et Vide ton sac. Interligne dans ces lignes aujourd'hui nous conduit dans la culture kapsiki. Ça sera dans le cadre de la rubrique Soir au village. Dans Tape à l'œil, Interligne s'intéresse à un rythme musical de plus en plus prisé par bon nombre de jeunes, le mbolé. Des jeunes se prononceront au sujet de ce qui les attire et captive dans ce genre musical. Et dans Vide ton sac, l'éphémère viendront vider leur cœur quant aux difficultés dont elles font face au quotidien, dans leur famille et dans la société en général. Bienvenue à tous. Ils sont principalement établis dans les monts Mandara. Les Kapsiki sont considérés comme faisant partie des Kirti. On peut les retrouver dans le Mayotanaga. Leurs principaux villages sont Sir, Mogodé, Rumsiki, Rumzu et bien d'autres. La culture Kapsiki, c'est dans un court instant dans Soir au village. Monsieur Jean Tigé, délégué paroissial de l'église catholique Saint-Jean de Diaringol, merci de répondre à nos questions.
Oui, merci madame.
D'entrée de jeu, dites-nous, qui est l'homme Kapsiki? Parlez-nous du quotidien des Kapsiki. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce peuple?
L'homme Kapsiki, c'est un homme ordinaire comme tous les autres hommes, comme les autres personnes. Et l'homme Kapsiki, c'est celui-là qui ne se laisse pas faire. Et l'homme Kapsiki n'est jamais celui-là qui est tranquille. Ça dit qu'il ne travaille pas, qu'il est paresseux. Ça dit qu'on remarque l'homme Kapsiki suivant ses œuvres, son travail. Et l'homme Kapsiki, c'est un homme très accueillant. La particularité de l'homme Kapsiki, c'est d'accueillir d'abord l'étranger. Chez nous, quand un étranger vient, qu'on te connaît ou pas, on t'accueille très bien. Voilà l'homme Kapsiki d'abord.
Quelle est la base de la tradition Kapsiki?
La base de la tradition Kapsiki, c'est le rite de Gola, qu'on appelle chez nous. Gola, là, c'est mettre un garçon parmi les autres hommes. Voilà l'homme Kapsiki. La tradition type, c'est que quand tu es enfant, garçon, on doit te mettre parmi les hommes. Et d'entrée de jeu, on te prépare à être l'homme là, en passant par le rite de Gola.
Ça veut dire que ceux qui ne passent pas par le Gola ne sont pas hommes?
Ils ne parlent pas parmi les gens. Si tu ne fais pas le Gola chez nous là, tu vas faire tes réunions avec les femmes. Tu ne peux pas venir parmi les hommes et parler. Parce qu'on te voit toujours, même si tu es vieux de 70 ans, on te dira toujours que tu es petit, un enfant. Voilà.
Quels sont les autres rites observés chez les Kapsiki et comment est-ce que ça se passe?
Les autres rites, il y en a beaucoup. Par exemple, il y a la danse au clair de lune des jeunes filles et que les garçons viennent voir. Il y a le rite de mariage, il y a le rite de deuil. Hein? Et puis... Il y a le rite de la récolte. De la récolte.
Que représente la montagne pour les peuples Kapsiki?
La montagne pour les peuples Kapsiki, c'est un refuge. Vous savez, au temps de guerre avant, c'est la montagne qui a sauvé l'homme Kapsiki. Parce que ils peuvent, en cas de danger, grimper dans leur montagne et se cacher dans les grottes. Et non seulement ça, quand les chevaux venaient, on poussait les cailloux en bas et les arrêtait net. Donc pour l'homme Kapsiki, la montagne pour lui c'est un refuge.
Parlez-nous, monsieur, des mets traditionnels Kapsiki.
Les mets traditionnels Kapsiki, c'est tellement variant. Je vous parlerai par exemple de la sauce de foléré qu'on appelle feuille d'oseille. Bon, il y a aussi la pâte d'arachide qu'on fait pourrir avec les os. Ça devient le condiment pour mettre donc dans la sauce. La sauce d'oseille, ça s'appelle en Kapsiki chat. Donc quand on prépare ce chat-là avec la pâte d'arachide pourrie avec les os, on le mélange, on le laisse pourrir pendant au moins 2 semaines. Alors quand on prend ça là, on mélange, on prépare, ça donne un goût formidable. Voilà le mets le plus connu chez nous. Il y a ce qu'on appelle aussi le koutou. Koutou chez nous, c'est une sauce qu'on fait rien qu'avec l'arachide. Rien qu'avec la pâte d'arachide, donc malaxe, on met le potasse dedans, on met les chicouris dedans, on ferme, on laisse 2 jours, on prend l'écorce d'arbre, il y a une écorce d'arbre qu'on prend, on met dedans pour que ça ne se pourrit pas. Et ça là, on le mange comme ça, avec la nourriture. C'est très bon à manger, on appelle ça koutou. Voilà encore un autre manger. Et puis le reste, c'est comme tout le monde connaît, qui est l'homme qui ne mange pas la viande. De temps en temps, on tue aussi la chèvre pour manger. Donc voilà le mets Kapsiki.
Comment se passe le mariage en village Kapsiki?
Du côté des filles, le mariage est un peu compliqué. Très compliqué, pourquoi? Parce que depuis que ça a commencé chez l'homme Kapsiki, l'homme a été toujours une chose qui coûte très cher. Si vous n'êtes pas bien dans votre famille, vous ne pouvez pas avoir une femme. Pourquoi? Parce que dès que la fille a 1 an, il y a des gens qui côtoient déjà cette fille-là, et ils amènent les colis, ils amènent des petits cadeaux pour dire à la famille que cette fille-là sera la femme de mon fils. Et ça, à ce moment-là, la fille-là grandit chaque année, la famille du garçon part cultiver dans le champ des parents de la fille, ainsi de suite. À un moment donné, quand la fille a déjà atteint peut-être 15 ou 17 ans, on la prépare déjà pour aller chez son mari. Voilà comme le début du mariage chez l'homme Kapsiki. Quand elle est déjà prête pour le mariage, on prépare une fête. Cette fête-là, elle est encore chez ses parents. Les hommes, c'est-à-dire que les parents de l'homme, c'est-à-dire qu'ils viennent avec certaines personnes, c'est-à-dire pour accompagner. Et le mari ne vient pas, c'est les parents de l'homme qui viennent chez les parents de la fille avec la dot. La dot chez l'homme Kapsiki, avant c'était les chèvres. Et bon, si tu es riche, tu peux amener peut-être 2 têtes de bœuf, mais sinon tu vas amener au moins même 20-30 chèvres. Et tu prépares le vin qu'on appelle chez nous thé. Ce thé-là, on le met dans les petits bourmas, les petits trucs respirants. Là, on met le vin. Vous amenez au moins 30 pots. Vous déposez chez le père de la fille. Et le jour où la fille devrait aller en mariage, en réalité, il y a des habillements coutumiers qu'on fait porter à la fille. Ça veut dire que le jour-là, elle ne doit pas porter les pagnes ni la jupe. Il y a les genres de cache-sexe très jolis, tressés. C'est ça là, qu'on porte à la fille. Avec une couronne sur la tête, et on la badigeonne avec l'huile de caïcédra, et avec le poudre rouge là, on met peut-être un peu au-dessus de ses seins, et le jour là, elle va partir chez son mari et c'est la fête.
L'on remarque généralement un fait dénominateur marquant dans presque toutes les cultures, que ce soit Tupuri, Mufu, Mafa et bien d'autres. Les soirs au village, c'est très souvent au clair de la lune ou autour du feu. Dites-nous, comment est-ce que ça se passe chez les Kapsiki?
Moi, chez les Kapsiki, autour du feu, au clair de la lune, il y a les jeunes garçons qui préparent leurs flûtes. Ils viennent avec des flûtes et les filles préparent les chansons. Elles viennent, elles chantent autour du feu, on danse, les garçons sifflent leurs flûtes et le tamboureur frappe le tambour jusqu'à 1h du matin. En ce moment-là, la veillée est finie. Demain encore, c'est la même chose. pendant au moins un mois. Et surtout, ça commence au mois de janvier et ça finit au mois de mars. Et pendant le mois d'octobre, octobre, novembre, décembre, c'est le travail champêtre. Et il y a la récolte. Bon, en ce moment-là, on ne permet pas aux enfants d'aller jouer ou bien d'aller danser, même que ce soit dans la nuit ou soit dans la journée. Parce qu'on les initie, c'est-à-dire à aller travailler. Ils vont aller aider les parents au champ. Il faut qu'ils apprennent à faire le relève. Donc c'est pour ça qu'on ne laisse pas les enfants jouer. Donc tout est revenu donc, du champ, tout est dans le grenier maintenant, mais on peut aller s'amuser. C'est comme ça donc au clair de lune, les filles, les jeunes filles, les jeunes garçons partent danser autour du grand feu allumé. Ou bien quand il y a clair de lune même surtout, au clair de lune.
Lorsque les jeunes enfants, garçons et filles dansent, qu'est-ce que font les parents, le patriarche du village?
Le patriarche du village décortique les arachides. Au clair de lune, là, chacun vient avec une quantité d'arachides. Ils sont là en train de parler, de faire le compte, les comptes en décortiquant les arachides là tout autour. Hein? Ceux qui ne sont pas intéressés à danser sont là pour décortiquer leurs arachides. Mais tout, ils prêtent attention sur les chansons des filles. Parce que si filles la grondent d'autres filles d'un autre village, que quoi que vous êtes paresseuse, que quoi que vous êtes sale là-bas chez vous, que quoi, c'est ça la chanson là en ce moment. Parce que ça là, c'est une chanson un peu provocatoire quoi. C'est pour exciter les autres aussi à chanter de leur côté pour insulter l'autre, c'est comme ça. Donc, et s'il y a une chanson qui peut enchanter quelqu'un, c'est les filles chantent, c'est-à-dire en faveur des garçons à l'homme qu'elle aime. En ce temps, elle peut émettre dans ses chansons que le garçon là est beau, que le garçon là est ceci, tu vois. Mais après ça là, elle peut insulter une autre fille, c'est-à-dire qu'une fille quoi, pour que cette fille ne doit pas aller chez son garçon. Donc voilà ce qui se passe donc dans la danse là, autour du feu et au creux de la rue.
Vous parliez tout à l'heure des contes. Qui narre ces contes et à qui?
Les contes, c'est aux plus petits. Les plus petits, c'est-à-dire que ceux qui viennent avec les grands-parents là, qui ne peuvent pas entrer dans la danse des jeunes là, on fait des contes. On leur fait des contes, par exemple, il y a une conte que je n'ai pas oublié. On dit qu'il y a une femme qui s'appelle la mort. Elle a un seul pied, un seul œil, une seule main, le sein là c'est un. Ça veut dire qu'elle est une moitié de l'homme quoi. Alors cette femme, quand elle veut tuer une personne, elle vient donc quand les enfants ont fini de danser au clair de lune, elle se couche et, bon, excusez-moi hein, parce que je serais un peu grossier, elle se couche sur le dos et on dit qu'elle utilise son sexe comme le tambour. Elle tape son sexe et miraculeusement, c'est tout le monde qui entend. Alors toi qui aime trop la danse, elle peut t'attirer, toi le premier à venir. Tu vas venir trouver qu'il n'y a personne, mais il y a le tambour qui résonne. Et maintenant, comme tu ne vois personne, tu vas partir. Dès que tu rentres le lendemain, tu vas mourir. Donc, c'est comme ça. Il faut faire très attention. Quand les gens quittent, ça dit que la place de la danse, au clair de lune, il n'y a personne qui revient. Si tu reviens, tu cherches ton malheur. Donc, c'est comme ça là-bas chez nous. Et les contes, c'est les petits-enfants. Donc, là, qui écoutent ça, c'est pour leur dire que un jour, c'est pour faire peur aux enfants, quoi. C'est pour qu'ils ne divaguent pas n'importe où dans la nuit. Voilà. Donc, ce conte-là, c'est comme ça que les grands-parents font. Et non seulement ça, il y a d'autres contes aussi qu'on leur conte parce qu'il faut être poli dans la vie. Tu vois, tout ça, là. Hein? On peut, par exemple, prendre l'exemple sur un conte. On dit qu'il y a une femme qui avait eu un enfant, une fille. Et cette fille-là est partie en balade. Et comme ça, elle s'est jetée parce qu'il n'avait rien à la maison. Elle est revenue avec beaucoup de choses à la maison. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obéi à chaque personne qui l'interpellait à la route. Et c'est le malheureux qui l'interpellait. Quand on t'interpelle, tu dis oui maman, c'est comme ça qu'elle a obtenu beaucoup de choses. Elle est revenue. Mais maintenant, il y a une fille donc de la coépouse qui a décidé elle aussi d'aller comme cette fille-là. Et en allant, elle trouve une femme borgne. Ma fille, aide-moi. Tu es boring comme ça. Elle arrive, elle gronde tout le monde en route. Finalement, elle est rentrée bredouille Et elle est devenue la plus malheureuse du village. Donc tout cela, c'est le conte qu'on dit aux enfants pour qu'elles prennent en conscience, c'est-à-dire que dans la vie, il faut respecter.
Vos contes sont donc de nature éducative.
Éducative, voilà. Les contes kapsiki sont des contes éducatifs.
Maintenant, monsieur, revenons à la communauté kapsiki de la paroisse Saint-Jean de Djaringol. Dites-nous comment ça se passe dans cette communauté des kapsiki, c'est-à-dire vos différentes activités.
La communauté kapsiki de la paroisse Saint-Jean, et ce sont des chrétiens. Et ils participent à la... c'est-à-dire que... à tout ce qu'on fait à l'église, ça veut dire qu'ils viennent à la messe dominicale, ils viennent pour le balayage, ils viennent pour les offrandes, ils viennent pour écouter la parole de Dieu. Et puis, de temps en temps, il y a leur réunion au sein de l'église. Après la messe, par exemple, après le culte, ils se réunissent entre eux et ils partagent donc la parole qu'ils ont compris dimanche, c'est-à-dire que l'homélie du Père, et puis l'évangile, et puis on disloque. Voilà comment ça se passe.
C'est une association religieuse. Est-ce que vous vous intéressez uniquement à ce qui a trait à la religion? Sinon, quelle autre activité est-ce que vous menez dans votre association?
Dans notre association, ce n'est pas uniquement religieuse. Même au quartier, on a des réunions de cotisation. Et puis, on a aussi, c'est-à-dire que comment faire pour avoir un champ communautaire, pas de l'église, mais de notre communauté kapsiki ici. Et surtout, moi, je m'intéresse beaucoup plus même à la communauté kapsiki de Saint-Jean, parce qu'ils ne prennent pas part seulement aux affaires de l'Église. Ils prennent part même dans les affaires musulmanes. Même dans les affaires musulmanes, les kapsiki musulmans se réunissent souvent avec les chrétiens. Nous entendons. Même s'il faut qu'on cotise pour aider une personne, on le fait ensemble avec le musulman. Même s'il faut qu'on cotise pour voyager, pour aller saluer un deuil quelque part, on le fait tous avec le musulman. Donc la communauté kapsiki ne s'intéresse pas seulement à la communauté religieuse de l'église. Ils sont aussi ouverts à tout le monde, que ce soit musulman kapsiki, que ce soit un païen kapsiki, que ce soit ce don kapsiki comme ça ici à Maroua.
Ils sont nombreux, nos auditeurs kapsiki. Peut-être un mot pour eux en kapsiki.
Ah, d'accord. Yo, kanjong er et kapsiki, ntekumbu marwa, hana kolkole acharye, vrenzan de nenashala, kolkabutukatswa kuchimbri. Yo, ndalmo, yarinza bakin yumbri nikanokun kitana, ak mga uswaga shingashambri, alanzan ma, unza grakochoko, kitangin, kanokun ki rum, habdame acharye kapsiki, et puis hana mkulkuleta narayanaray kulkangi.
Monsieur Jean Tiger, délégué paroissial de l'église catholique Saint-Jean de Djaringol, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
Mbolé, un genre musical devenu effet de mode pour des jeunes. Le mbolé, un rythme qui attire et captive de plus en plus de par son rythme même, ses pas de danse et ses messages véhiculés. Pour ses fans, le mbolé est ce qu'il faut danser lorsque l'on veut s'animer et animer les autres. Écoutons ces jeunes.
Moi, j'aime le mbolé. Pourquoi d'abord? C'est quoi le mbolé? C'est une musique camerounaise. Donc, ce sont les ghettomans qui ont inventé cela. On n'attend encore pas ghettomans. Que tu sois dans un secteur, les jeunes, les bagandos, les vendeurs, les shampoopouilleurs, ceux qui se débrouillent dans la frippe là, tout le monde là, au moins c'est ça qui nous réunit. Même les enfants de la rue, quand ils suivent ça, ils sont là, oui. Et ça commence d'abord par quoi? Un bon répondant. Il faut d'abord le djelé. Le djelé, c'est le petit truc de Apila. Quand ils tapent ça, oui, ça donne demande un bon répondant. Et aussi, il y a plusieurs manières de danser le mbolé. Donc, tu tapes les mains, tu te courbes un peu, tu fais un peu le genre. Bon, je ne sais pas comment faire ça parce que ici, là, on ne peut pas nous voir. Sinon, on devait faire un exemple. Donc, c'est un peu ça, le mbolé. Ça recoupe tout le monde. On peut te dire, tu sors du Cameroun. Qu'est-ce qui prouve que tu sors du Cameroun? Tu fais un petit mbolé. Par ça, on va connaître que tu es du Cameroun. Et on va connaître que oui, ça, c'est un bon mbolé. Et maintenant, pour le répondant. Ça, c'est un exemple de répondant. Mais je n'ai pas bien tapé parce qu'il n'y a pas beaucoup les gens. Ça veut beaucoup les gens. Donc, c'est un croix deux. Donc, ça ne se suit pas. Et là, tu dois avoir le rythme dans toi.
Moi, ce n'est pas que j'adore le boule en tant que tel. Mais quand je passe souvent dans certains, dans les snacks, les bars, et puis on lance les sons du boule là, ça me captive à danser. Parce que, donc, quand tu es seulement emporté par ça, dès que tu comprends seulement le rythme, tu es emporté. Surtout mon artiste favori, Petit Boza, mon frère. Surtout sa musique qu'il a chantée Unité, là, c'est pour dire quoi. Il y a un message que ça transmet, ça véhicule un message pour dire quoi. Il faut que la paix règne dans le pays. Les crises anglophones, les guerres par-ci, les guerres par-là, là, non, il faut que ça règne à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'il a sorti cela. Il y a également les médecins de Medellin qui ont sorti leur musique Alléluia, c'est pour dire quoi. La vie du ghetto. Avant qu'ils ne soient dans la musique, ils ont fait tellement de choses, ils étaient des bandits, ils insultaient, ils poignardaient, ils braquaient, tout ça. À travers la musique, ils expriment. La musique du mbolé, c'est un peu comme l'hymne national. C'est un peu comme l'hymne national. On exprime nos difficultés, on exprime notre joie, on exprime tout ce qu'on a traversé en fait. Donc, ce qu'elle pouvait dire, c'est que le ministre de l'art et de la culture devait franchement valoriser cela, encourager les jeunes. Parce qu'à travers la musique, beaucoup ont arrêté le banditisme, le vol. Ça fait au moins que ça réduit le chômage. Quand tu sais que tu ne peux pas fréquenter, même quand tu n'as pas fait l'école, le mbolé est là, tu t'en sors. Petit, même un petit enfant comme ça de 2 ans peut se mettre à chanter le mbolé. Dès qu'il y a déjà le répondant là comme ça, là, ça se met à sortir seulement. Les mots sortent au fur et à mesure. Tu crées. Ça, c'est la création. Donc, c'est ça qui fait la valeur du pays. Le Cameroun. C'est pour ça que les happy, les trucs là, tout ça. Tu passes souvent dans les mariages en Europe, tu entends, ils se mettent à mettre le mbolé. Mais seulement comme ils ne savent pas danser, que quand on danse, on commence à descendre un peu en secouant un peu les mains comme ça, en remontant légèrement. On danse, on secoue les mains. Remonter légèrement. Et puis, on fait souvent les piches à gauche, à droite, machin. On met aussi le machin, le coupé, décalé, les euros dansent un peu à l'intérieur. Bon, j'aime bien ça. J'aime bien ça, surtout quand je pars en boîte, là. J'aime secouer. Quand il n'y a pas les musiques des slow, machin, c'est si moi, je ne suis pas moi trop dedans. Les slow, là, c'est qu'elles sont couchées sur mon lit. Mais quand il n'y a pas en boîte, là, lancez un peu les sons de Petit Boza. Lancez un peu les sons de Happy. Lancez les sons des médecins de Medellin. Tu vas voir comment il va shake toi-même, tu vois. Si c'est pour ça, je danse, danse, je vois les gens, ils font un rythme. Je capte le rythme là et danse. J'aime bien ça.
Moi, j'aime le mbolé parce que c'est un bon rythme. Ça passe partout, que ce soit anniversaire, veillé, ça passe partout. Et c'est un bon rythme. Marie qui ne sait pas danser, mais j'aime quand même voir les gens danser ça.
J'aime le mbolé parce que la manière de le danser là. Même si je ne sais pas danser aussi, le mbolé là, ça me plaît beaucoup.
J'aime le mbolé parce que le mbolé fait danser et j'aime bien le rythme du mbolé. C'est du genre un son qui se danse de plusieurs manières. Et quand tu suis ce son, même si tu es malade, tu es où? Tu as juste envie de bouger, de te détacher, les trucs comme ça, ainsi. Donc, le mbolé est souvent accompagné des matériaux, quoi. Du genre, comme par exemple le djembé, qui accompagne le rythme du son et la danse. OK. Et c'est le genre, quand en tapant le djembé, les mouvements suivent, les danseurs passent tout partout pour faire la danse, pour montrer comment ça se passe. J'aime le mbolé parce que le mbolé, ça fait danser. Bon, ça fait vraiment... Ça donne un peu l'envie de danser.
Du coup, du genre, quand tu suis un son du mbolé, tu as envie de danser, de bouger, malgré tes circonstances. Les trucs, en tout cas.
Je m'appelle Yaouba. Je m'explique, j'aime trop beaucoup le mbolé. Je ne sais pas pourquoi ça m'active, parce que ça, quand il chante ça, j'aime trop chanter, j'aime trop écouter sa musique et le rythme de ça.
J'aime le mbolé parce que c'est captivant, c'est ambiancé, en plus c'est le rythme de chez nous.
J'aime le mbolé parce que la façon qu'il danse, il tape les mains, ça me plaît. J'aime aussi le mbolé parce que quoi, comme il commence avec le djembé, il commence à taper les mains, ça m'inspire. J'aime la façon qu'ils font les mouvements de danse là. Ça m'apprend aussi à danser. Comme c'est un son camerounais, 247, c'est pour ça que j'aime aussi ça.
Bon, moi, j'aime vraiment le mbolé parce que c'est bien et le rythme aussi me plaît. Sinon, pour la danse, je ne maîtrise pas bien la danse. J'apprends quand même.
Elles font face à une pléthore de difficultés dans leur quotidien. Les filles-mères, abandonnées à elles-mêmes pour la plupart, ne savent plus à quel sens se vouer. Taxées de tous les noms d'oiseaux, elles sont partagées entre désespoir et tristesse. Quelques-unes d'entre elles se sont confiées à nous. Écoutons-les.
Moi, quand j'étais enceinte, je n'ai pas connu en fait beaucoup de difficultés. Parce que j'ai été acceptée par mes parents et comme je suis l'unique fille à mon papa, ils ont bien pris soin de moi. J'ai accouché, je n'ai pas eu en fait beaucoup de difficultés. Et le père de mon enfant prenait soin de moi en fait. Il donnait la pension pour l'enfant et tout et tout. Mais le problème c'est que les gens du quartier mal parlaient de moi. En se disant que comme je suis une fervente croyante, comment je suis tombée enceinte et accouchée à la maison, pour eux c'est une mauvaise chose. Ils se disent qu'à l'église je montre l'exemple, pourtant moi-même là je ne suis pas une bonne personne. Et du coup ça me gêne en fait, je me montre de sortir dans la rue, aller au marché et tout et tout.
Moi quand j'étais enceinte, mes parents ne me considèrent même pas. Et même au quartier, mes amis se moquaient de moi.
J'ai posé un acte que je regrette vraiment. Et je ne pense pas qu'un parent, ou que ce soit un parent ou une autre personne, ne souhaiterait jamais que ça arrive à une fille comme moi. Ça m'est déjà arrivé, mais je regrette vraiment. Je me retrouve au 7e mois de ma grossesse. Et dorénavant, j'en souffre. Au début, quand j'ai pris cette grossesse, mes parents d'abord m'ont banni de la maison. C'est grâce à ma mère que j'ai pu rester jusqu'à ce mois-ci. Je me retrouve actuellement à mon 7e mois de grossesse. Bon, je prie Dieu qu'il m'aide à bien enfanter cet enfant que je porte en moi. Car c'est pas du tout facile. J'ai beaucoup trop souffert en ce moment. Et jusque-là, je continue de souffrir. J'espère vraiment que je peux bien enfanter cet enfant et qu'il puisse aussi survivre. Au quartier, tout le monde se moque de moi, pensant que j'ai fait un pas que... Bon, je pensais juste... Moi-même, au départ, je pensais pas que j'allais regretter ainsi. Je regrette d'avoir avancé ainsi, mais je ne regrette pas d'avoir eu un enfant. Vraiment, j'ai fait une erreur, mais je ne le regrette pas totalement. Ce que je ne regrette pas, c'est le fait que j'ai pu résister avec cette grossesse. Je souhaite que cet enfant survive, car si j'essayais de l'avorter auparavant, je risquerais aussi ma vie. J'ai pu résister et je souhaite qu'il soit en vie. Et je donne aussi un conseil, vous tous qui m'écoutez, s'il vous plaît, que ce soit un parent ou une autre fille comme moi, faisons tous attention. J'ai fait un mauvais pas, je le regrette de tout cœur. Mais si vous essayez de le faire, n'essayez pas d'avorter, car nous risquons tous notre vie en essayant d'avorter.
Quand j'étais enceinte et que j'ai informé mes parents, ils ont mal pris. Ils m'ont insulté, ils m'ont grondé, ils m'ont banni de la maison et ils m'ont demandé d'aller chez la personne qui m'a enceinte là. Et comme je savais depuis que le père de l'enfant dit qu'il ne veut même pas de l'enfant là, que c'est pas lui l'auteur, donc j'ai dû souffrir seule comme ça pendant tout au long de ma grossesse. J'ai dû rester chez une amie qui m'est venue en aide, qui a été mon soutien pendant tout ce temps. Et mon entourage, elle se moquait de moi, mes amis, mes connaissances, tout. Ils se moquaient tous de moi. Ils disaient que comment avec tout le bagage intellectuel que j'ai là, comment est-ce que j'ai pu tomber dans ce piège comme ça. Mais bon, j'ai accepté de garder l'enfant. C'est Dieu qui donne l'enfant. C'est Dieu qui donne la vie. Qui suis-je pour la ôter? J'ai préféré souffrir avec l'enfant comme ça. Et jusqu'à ce que je suis arrivée à terme. Maintenant, tout va bien. L'enfant se porte bien. Et il y a même son papa qui cherche à avoir des contacts avec lui, mais bon, personnellement, je pense pas, je ne veux pas, parce que je préfère souffrir et élever mon enfant seul. Et il a un an, bientôt il aura 2 ans.
Et avec la famille, ça
se passe comment? Avec la famille, bon, ils m'ont pardonné. Du moins, je passe de temps en temps à la maison avec l'enfant et je pense que tout est en train de redevenir comme avant. Tout s'arrange.
Pour les jeunes mamans qui accouchent un peu chez eux tôt et que le papa a fait ses responsabilités, là, ça n'a pas été facile. C'est pas facile, franchement, pour nous parce qu'il y a tellement de railleries dans le quartier. On te voit un peu comme, je ne sais pas, comme une personne étrangère, comme si c'est toi qui avais commis le péché d'Adam et Ève, je ne sais même pas. Dans la maison, alors, on te voit comme la mauvaise graine de la famille, surtout quand la famille avait mis l'espoir, tout l'espoir sur toi-là. Et puis, tu reviens avec une grossesse, on digère d'abord. Et puis, quand on entend encore que le père a fui les responsabilités là, le parent, alors, ne te considère pas. Toi-même, tu ne te sens pas à l'aise, tu n'es pas dans ta place, tu restes, tu réfléchis. Parfois, le seul moyen qui te vient en tête, soit parfois, tu dis que si c'est que je n'étais plus de ce monde, peut-être que ça aurait changé des choses. Moi, je vais prendre l'exemple sur mon cas. Quand moi, j'étais enceinte de mon premier enfant, de ma première fille, mon unique enfant, bon, le papa, lui, il a fui les responsabilités, disant qu'il n'avait pas, il ne sait pas comment il va s'en occuper de l'enfant, lui-même aussi, il n'est pas aisé, il n'a pas les machines, ceci, patati. Moi, je suis allée voir mes parents, et puis même comme ils voyaient, comme si je les avais déçus, mon papa avait déjà lavé les mains sur moi, j'étais là seulement comme ça, là, je me battais aussi, je faisais tout ce que je trouvais, je faisais aussi des petits commerces, c'est ça que je cotisais. Mes frères et sœurs ne m'avaient pas aussi également abandonné. J'avais mes frères et sœurs, s'ils partent souvent au marché, ils trouvaient un petit truc pour l'enfant, ils achetaient les habits. C'est comme ça que, au fur et à mesure, il y avait la layette. Et comme les mères aussi n'abandonnent pas leur enfant, même si l'enfant a fait comment, la mère reste toujours la mère. Donc, au fur et à mesure, ma maman aussi, elle m'aidait aussi pour acheter la layette de l'enfant, ainsi de suite. Jusqu'à la naissance de l'enfant, l'enfant est né. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai eu d'abord beaucoup de difficultés pour l'accouchement. Parce que je n'ai pas tout suivi, les examens qu'il fallait, examens prénataux, tout ça, je ne suivais pas. Mais le jour maintenant que je suis allée pour l'accouchement, c'était un peu tellement difficile pour moi que j'étais soit entre la vie et la mort, soit c'était l'enfant, soit c'était moi. Mais comme tout ce que Dieu fait est bon, j'ai pu survivre à cela, ainsi que mon enfant qui est sorti en bon état. Maintenant, voilà ça aujourd'hui, mon enfant, quel âge elle a? 2 ans. Son grand-père, mon père, il est content. Il voit, c'est sa petite fille. Il se balade avec elle. Ils partent partout, ils partent ici, ils partent là-bas. C'est comme ça que les gens du quartier, s'ils veulent, c'est moi, je m'en moque. Moi, je m'en moque. J'ai ma famille qui me console, qui est avec moi, qui me soutient. J'ai ma fille. Je vais encore demander quoi à Dieu. Juste ce qu'il peut demander, un bon travail, un mariage, un bon mari qui va s'occuper de moi, qui va m'aimer, mon enfant et moi. Parce que l'homme qui dit qu'il m'aime, il doit aimer mon enfant, même si ce n'est pas de lui. Il doit aimer. Et voilà ça, la maman du gars revient. Elle revient encore chercher quoi? Elle a dit, abandonné, le mal a déjà été fait. Je ne vais pas l'empêcher de venir voir sa petite fille. Mais bon, retourner encore avec son fils là, là c'est zéro. Pourquoi je pardonne encore là? C'est impossible, quasiment impossible. Tout ce qu'elle cherche seulement, c'est l'avenir de ma fille. Dès qu'elle grandit bien, bien là, elle-même va connaître la situation. C'est à elle de voir si elle va pardonner à son père, si elle ne va pas pardonner. Sinon, je ne vais pas mettre des futilités dans la tête de mon enfant que ton père a fait, c'est ton père, pour qu'elle déteste son père ou haïsse là.
Divertissement pouvant être vu par tous rassemble la famille tandis que la culture rejetée par certains la divise. Mesdames, Messieurs, Interligne range ses lignes et rentre en gare. Dans Soir au village, nous étions dans la culture Kapsiki avec Jean Tizé, délégué régional de la paroisse Saint-Jean. C'était l'invité de Soir au village. Avec lui, nous avons parlé de la culture Kapsiki. Et dans Tape à l'œil, nous nous sommes intéressés au mbolé tel qu'apprécié par les jeunes. Et dans Vie de ton sac, nous étions dans le sac d'éphémères, triste et désespéré. Elles nous ont parlé des difficultés auxquelles elles font face au quotidien. L'équipe en charge de la production de cette émission était constituée de Maxino à la partie technique, David Bayan à la coordination. Et dans ce studio, je suis l'idole Wawa. Souvenez-vous, amis auditeurs, la culture, c'est tout ce qui nous reste, quand bien même on a tout perdu.